Je vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous allons vers le Redoux, cela nous donne envie d'être dehors et de marcher au milieu des arbres. Un aménagement forestier gagne certaines villes du Québec. Je veux parler des micro-forêts urbaines où les arbres plantés de manière dense apportent de nombreux bénéfices environnementaux et sociaux. Les services écologiques de ces micro-forêts vont de la création d'îlots de fraîcheur à la purification de l'air, sans compter la captation du carbone et des eaux pluviales. Ce sont aussi des refuges pour la biodiversité et des lieux de socialisation. Lancé il y a près de 50 ans au Japon par le botaniste japonais Akira Miyawaki, ce concept d'aménagement forestier, très populaire au Japon ou en Inde, a le vent en poupe ici. Cela serait prometteur alors que nous cherchons des moyens de lutter contre la perte de biodiversité et les changements climatiques. Quels sont les bénéfices et les services de ces micro-forêts? Ne bougez pas, nous en parlons tout de suite. À Je vote pour la science, nous désirons vous emmener dans les micro-forêts urbaines. Ces plantations arboricoles gagnent du terrain en ville, à Montréal, à Candiac et dans d'autres municipalités du Québec. Pour en parler, je suis en compagnie aujourd'hui de François Limoges, maire de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Marie-Hélène Brice. Elle est botaniste, chercheuse à l'Institut de recherche en biologie végétale au Jardin botanique de Montréal. Elle travaille en dynamique forestière. Elle est professeure à l'Université de Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Rojas Arias, chargée de projet chez Arbre Évolution, une coopérative de solidarité qui œuvre dans la plantation d'arbres, la restauration d'écosystèmes et la transmission de connaissances. Bonjour.
Bonjour.
Donc au Québec, les micro-forêts urbaines se comptent presque sur les doigts des deux mains. Il y en a une à Saint-Constant, une sur l'île Saint-Bernard à Châteauguay, une dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie de Montréal. En fait, il y en a quatre. La municipalité de Candiac a la sienne depuis l'été dernier et une autre devrait voir le jour à Boisbriand. Monsieur Limoges, pour commencer, c'est encore une idée relativement nouvelle au Québec.
Oui, c'est une idée assez nouvelle au Québec. C'est une idée qui nous vient du Japon, qui est une méthode qu'on appelle la méthode de Miyawaki, et que personne dans l'arrondissement qu'on a choisi d'implanter assez rapidement, qu'on a fait, on a pris la méthode Miyawaki, on l'a mis à la sauce nord-américaine, naturellement, parce que c'est difficile d'importer le concept très exact. Mais on le fait parce que on le fait dans Rosemont, premièrement parce qu'on est un arrondissement de transition écologique, mais deuxièmement parce que c'est une mesure qu'on peut faire facilement à un coût raisonnable en impliquant les communautés et qui met énormément, sur lequel on parie qu'il y aura un apport en biodiversité très intéressant dans nos parcs et nos espaces verts.
Oui. Pour l'instant, vous en avez quatre, c'est ça?
Oui, on en a quatre, mais on ne s'arrêtera pas à quatre.
Entendu. Professeur Brice, quelle est la différence entre une forêt urbaine et une micro-forêt urbaine?
Il y a plusieurs différences quand même. On peut regarder différents axes. Premièrement, il y a la taille. Bon, une micro-forêt, par définition, elle est petite. Alors que les forêts urbaines peuvent être de taille très variée. Il y en a des très grandes, comme on a le Mont-Royal à Montréal. Puis la taille souvent est associée à une plus grande diversité et plus de fonctions écologiques. C'est une différence majeure. Donc, une micro-forêt, de façon générale, c'est super, mais une grande forêt, ça va être encore mieux, et tu vas avoir plus de biodiversité.
Oui, une micro-forêt, le Mont-Royal, c'est pas une micro-forêt?
Non, c'est ça. C'est une vraie forêt urbaine. C'est beaucoup plus grand que ce qu'on va pouvoir créer à de toutes pièces du jour au lendemain.
Les micro-forêts, donc c'est pas nouveau, le botaniste japonais Akira Miyawaki a élaboré ce concept d'aménagement forestier dans les années 70. Qu'est-ce que ça prend pour faire une micro-forêt urbaine, justement, M. Rojas Arias?
Oui, mais ça prend plusieurs étapes. Dans le fond, de, comme M. Le Maire a dit, c'est un processus souvent social. Donc, il y a toujours une implication de la communauté locale qui a lieu. Puis, dans le fond, il y a plusieurs étapes pour réaliser une microforêt. Bien sûr, la planification, c'est important. Puis, d'abord, j'aimerais juste ajouter que d'habitude, on fait des microforêts dans des zones perturbées par les activités anthropiques, fortement perturbées. Donc, ça prend une étape de travail du sol. D'habitude, on le fait dans des zones gazonnées. Donc, il y a une étape de détourbage, une étape d'ameublissement, puis d'amendement du sol. Éventuellement, qu'est-ce qu'on cherche avec la microforêt, c'est de s'approcher une forêt mature. On essaie de sauter les différents stades successionnels écologiques. Donc, on va s'approcher à qu'est-ce qu'est la forêt mature dans cet endroit aurait avoir lu, là, c'est, mettons, la végétation naturelle potentielle de cette région. Donc, on va sélectionner les essences qui auraient poussé là si aucune perturbation n'aurait eu lieu par l'activité anthropique. Donc, après avoir travaillé le sol, puis après avoir choisi les essences, on va faire la plantation à une très haute densité. D'habitude, nous, on plante 3 arbres par mètre carré. Donc, c'est une plantation hyper dense.
Normalement, dans les villes, les arbres, on les plante à quelle distance?
Mais il y a plusieurs politiques. Il y a des arrondissements qui les font à 4 mètres, il y a d'autres qui les font à 3 mètres, il y a des municipalités. Ça dépend vraiment des les terrains et l'objectif de chaque plantation.
Entendu, on va aller voir peut-être, M. Limoges, dans Rosemont Petite Patrie, vous les plantez normalement à combien, vos arbres?
Ça dépend si on les plante sur rue, ça dépend si on les plante dans les parcs, mais vous savez, traditionnellement, les arbres en ville, c'était pas de la forêt, là. C'est un arbre très espacé, entouré de pelouse, des fois entouré d'asphalte ou de béton. Alors, c'est pas une forêt urbaine très vigoureuse, c'est des arbres ornementaux. Je dis pas qu'ils ont pas de valeur écologique, là, mais ça reste l'équivalent d'une plante en pot. Alors, ce qu'on veut faire avec les micro-forêts qu'on plante et avec la plantation d'arbres qu'on fait en général dans les parcs depuis quelques années où on plante beaucoup d'espèces indigènes un peu plus rapprochées, c'est de renverser l'aspect plante en pot de la nature en ville. Alors, c'est de créer des milieux beaucoup plus naturels. Effectivement, on parle de 3 à 5 arbres, nous, par mètre carré. Alors, on est dans une densité exceptionnelle. C'est des tout petits sites. Ils ne sont pas énormes, ils sont grands comme le studio ici, à peu près. Mais ça pousse à une vitesse phénoménale. Et l'idée aussi, c'est de créer des milieux qui ne sont plus faits pour le loisir humain. L'aménagement des villes a toujours été fait pour que les humains se promènent, s'amusent, circulent partout. Les arbres n'étaient pas, étaient, comme on dit, décoratifs. Les gens pouvaient marcher entre les arbres. Là, on crée des milieux où l'humain n'aura plus sa place. C'est pour qu'il y ait de la biodiversité, c'est pour qu'il y ait de la nature, c'est pour créer des forêts très denses qui pourront abriter la vie.
Oui. On a évoqué la méthode Miyawaki. Monsieur Rojas Arias, c'est quoi cette méthode-là?
Mais justement, c'est un peu qu'est-ce qu'on a décrit. C'est une méthode où on va aller chercher des essences indigènes pour se rapprocher à une végétation naturelle potentielle, puis où on va travailler le sol, parce que d'habitude, comme je disais, on le fait dans des endroits très perturbés, donc il faut travailler le sol, et puis il faut les nourrir avant de planter les arbres. Puis un aspect très très important dans la méthode, c'est l'aspect communautaire, l'aspect participatif, où on va impliquer les gens de la communauté pour qu'eux ils aient un sentiment d'appartenance à cette
micro-forêt finalement. Professeur Brice, comment on aménage une micro-forêt urbaine du côté peut-être de la recherche? Qu'est-ce que ça nous apprend, ces micro-forêts, quand on les plante?
Ben, en fait, c'est une question, je pense, qui est encore en cours. On sait pas encore. Il y a très peu d'études scientifiques que j'ai vues qui ont vraiment permis de suivre. Ici, en Amérique du Nord, c'est très nouveau. C'est plus vieux au Japon, d'où ça vient. Mais ici, c'est totalement nouveau comme méthode. Donc, il reste beaucoup de recherches à faire pour évaluer les avantages et les inconvénients, l'efficacité. Justement, grâce aux nouveaux projets qui sont en train de voir le jour à Montréal et ailleurs au Québec, on veut être capable de réaliser des suivis pour essayer de documenter les bons coups et les échecs de ces méthodes-là. Est-ce qu'il y a des milieux plus propices que d'autres? Quelles espèces survivent bien si on les sélectionne dans la végétation potentielle, mais quelles espèces survivent bien dans le contexte urbain? Combien de temps c'est nécessaire d'entretenir? Après, là, on parle de 3 ans d'entretien, puis ensuite, ce serait des forêts autonome, mais est-ce que c'est nécessaire de faire pendant 3 ans ou il faut faire plus? Donc, il faudra mesurer tous ces impacts-là, puis aussi les bénéfices en termes de biodiversité et de carbone. On va pouvoir faire des études pour savoir, en fait, c'est quoi les avantages et aussi c'est quoi qu'il faut ajuster dans la méthode par rapport à la méthode originale.
Oui, on dit souvent imiter la dynamique naturelle, mais en fait, ça serait peut-être présenté de manière trop simple parce que ça serait beaucoup plus complexe que ça.
Ben, en fait, la dynamique naturelle est très lente. Mm-hmm. La succession végétale va s'étaler sur de nombreuses années. Donc, une forêt mature, ça prend des centaines d'années à s'installer. Puis ensuite, il y a une dynamique qui s'installe dans ces forêts matures-là. Dire qu'on peut le faire en 20 ans, c'est peut-être un peu exagéré, mais reste qu'en plantant directement les essences de fin de succession, il y a peut-être moyen justement d'accélérer un peu. En plantant de façon dense, est-ce que ça pourrait empêcher les espèces exotiques envahissantes d'entrer? C'est ce qu'il y a souvent dans les boisés urbains plus naturels des villes. Donc, ça peut permettre d'accélérer un peu la dynamique.
Oui, une forêt mature, c'est quel âge à peu près, juste pour savoir?
Plusieurs centaines d'années.
OK.
Oui. Oh, ben, ça dépend des régions, mais oui, c'est plusieurs centaines.
Oui, monsieur.
Au-delà de 100 ans, on considère que c'est une vieille forêt.
Entendu. Monsieur Limoges, qu'est-ce qu'on retrouve dans vos microforêts? Là, on a dit des espèces indigènes, mais on veut savoir quels arbres on met dans ces microforêts. Est-ce que c'est les mêmes arbres qu'on retrouve justement de manière ornementale sur le bout des trottoirs?
Non. En fait, on a fait 2 types de microforêts dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Les 2 premières étaient vraiment basées sur l'idée de Miyawaki de la méthode là, de planter des espèces de fin de succession. On l'a dit, en une forêt, c'est plusieurs successions de végétaux au fil des ans. Alors, les 2 premières étaient des forêts de fin de succession. Les 2 plus récentes, on a divergé encore plus parce qu'il y a un aspect, dans l'arrondissement, là, ce qu'on fait, il y a un aspect laboratoire urbain à nos plantations de microforêts. On prétend pas, justement, le professeur Brice l'a dit, on s'attend pas, on n'a pas encore les résultats. Alors, c'est un travail de longue haleine qu'on entreprend. On veut justement être le laboratoire pour mesurer qu'est-ce que ça va donner. On prétend pas que ça va donner, que ça va capter tant de tonnes de carbone ou créer tant de biodiversité. On veut le voir. Alors, on essaie différentes choses. Les 2 premières étaient des fins de succession. Les 2 dernières, on a été pour beaucoup plus de biodiversité, donc beaucoup plus d'espèces indigènes différentes.
Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve?
On y retrouve beaucoup, ben, on a été selon le domaine bioclimatique de notre région, et c'est les réablières à carriers cordiformes. Alors, moi, je suis pas du tout... Je suis pas du tout botaniste, là. Alors, ça se peut que je massacre le nom des espèces, mais c'est l'érablière à carrier cordiforme. Ben, les espèces, le carrier cordiforme, le carrier ovale, l'érable à sucre, l'érable noir, le hêtre à grande feuille, le charme de Caroline, l'ostrier de Virginie, la pruche, le chêne rouge, le chêne à gros fruits, l'orme d'Amérique, et pour n'en nommer que quelques-uns.
Oui, en fait, c'est ce qu'on retrouve dans les forêts autour de nous.
Exactement. On essaie de replanter ce qu'il y avait avant l'intervention humaine ici. Et on a parlé tantôt de l'aspect participation citoyenne qui est majeur, hein, parce que quand on plante un arbre de 10 ans qui a été élevé dans un champ là, qu'on achète sur le marché, il faut un appareil mécanique pour creuser un trou. Les racines sont devenues assez grandes. Ça prend des gens qui sont capables de faire cette plantation-là. Ça prend des spécialistes. Alors que là, on plante des petites pousses de 30 à 60 cm. Alors ça peut être planté par des élèves d'une école secondaire, par des comités de voisins. Ça peut être planté par un peu tout le monde et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une participation à la microforêt. L'an dernier, quand on a fait la plus récente, là, c'était effectivement des élèves d'une école secondaire et il y avait une fascination là, à avoir les mains directement dans la terre et à en planter des pousses qui allaient devenir éventuellement des arbres. Alors, il y a une participation humaine qui est vraiment intéressante.
Oui, M. Rojas Arias, justement, l'avait évoqué. Il y a un aspect social dans ces aménagements des microforêts qui sont faits par les citoyens. Donc, pourquoi c'est important de faire participer la communauté et les bénévoles, finalement, qui vont planter, M. Rojas Arias?
Oui, moi, je trouve que c'est essentiel, comme M. Lemar l'a dit. C'est une étape où les gens s'approprient vraiment de son environnement, puis ça contribue à la sensibilisation de ces gens-là. D'habitude, nous, on les fait avec des bénévoles, des adultes, mais aussi des adolescents, des enfants, puis je trouve que c'est une leçon extraordinaire pour eux autres, là, de mettre les mains dans la terre, de sentir qu'ils sont en train de faire un impact direct sur l'environnement. Et moi, je trouve que c'est une façon très appropriée d'être sensibilisé aux enjeux environnementaux de nos jours. Là.
Aussi, peut-être, de lutter peut-être contre l'éco-anxiété, parce que j'imagine que si on passe à l'action, ça nous permet de... justement, de faire un petit pouce de ce côté-là. Professeur Brice, quels sont les bénéfices écologiques et sociaux des microforêts urbaines, selon vous?
Il y en a de très nombreux bénéfices écologiques et sociaux. Des forêts, de façon plus générale, des arbres et tous les espaces verts qu'on peut trouver en ville, ça peut être d'abord un des effets qu'on recherche beaucoup en ce moment là. Dans la crise climatique, c'est la réduction des îlots de chaleur en ville et créer des zones de fraîcheur. Donc, pour ça, les microforêts, s'ils sont dans des milieux très urbanisés, vont vraiment permettre d'avoir un effet bénéfique pour créer des zones de fraîcheur en créant de l'ombre et en faisant de l'évapotranspiration. Les forêts vont aussi améliorer la qualité de l'air en absorbant des polluants puis en fixant les particules fines de pollution. Ils peuvent aussi piéger le carbone dans leur biomasse, donc dans le tronc et dans les racines. Ça va aussi favoriser la rétention et la filtration des eaux de ruissellement, qui est particulièrement important quand il y a des très fortes pluies. Donc, ça va réduire la pression qui est mise sur les infrastructures de drainage. Puis aussi, ça apporte un habitat pour la biodiversité. Donc, ça va permettre à des espèces de champignons, toutes sortes de plantes, des insectes, des oiseaux.
Des écureuils, par exemple. Mais on en a déjà beaucoup.
Et ça va assurer, dans le fond, une connectivité avec d'autres écosystèmes forestiers. Donc, en mettant des micro-forêts, on peut faire une connexion avec des écosystèmes forestiers plus grands. Puis, tous ces bénéfices écologiques-là, en fait, vont amener des bénéfices à la société. Donc, en réduisant les îlots de chaleur et la pollution, ça donne une meilleure santé physique de la population, donc une meilleure qualité de l'air, une meilleure qualité de vie. Souvent, les parcs sont associés à des gens plus actifs parce qu'ils vont pouvoir aller se promener, donc une meilleure santé, encore une fois, puis une meilleure santé mentale. Donc, vraiment, on va aller amener tout un tas de bénéfices qui sont à la fois environnementaux et sociaux.
Oui, Monsieur Limoges a dit qu'on ne pouvait pas marcher dans ces microforêts. On va marcher autour de la microforêt. Justement, Monsieur Limoges, quels sont les bénéfices pour l'arrondissement de Rosemont d'investir dans ces microforêts? Parce qu'il faut acheter des arbres.
Il faut acheter des arbres, mais c'est vraiment pas très cher quand on achète des petites pousses de 30 à 60 cm versus acheter des arbres de 10 ans. Des arbres de 10 ans, c'est entre 300 et 500 $ l'unité. Les petites pousses, c'est quelques dollars l'unité. Alors, c'est vraiment...
C'est pour une économie de prix, finalement.
Non, c'est pas pour une économie de prix. C'est vraiment dans un... Je donne l'ordre de grandeur parce que ça les rend facile à faire.
D'accord.
Mais c'est pas pour ça qu'on les fait. On les fait pour des raisons de transition écologique puis de résilience climatique. Le réchauffement climatique est réel. Dans les villes, il est catastrophique. Dans des quartiers centraux, comme la Petite Patrie, où il y a très peu d'espace vert, le différentiel de chaleur l'été entre, par exemple, la troisième couronne de Montréal puis le cœur de Montréal, ça peut être de 10 degrés là, certaines nuits. Alors, ça prend... Il faut adapter la ville au réchauffement. On n'a pas le choix. On vit avec le réchauffement climatique. Il est là. La crise climatique, elle est là. Alors, ça prend des actions tout de suite. Les microforêts, c'est pas en soi une solution, mais c'est parmi la boîte à outils de l'éventail de solutions. Et c'est l'idée, c'est de reconnecter les gens avec des espaces un peu plus naturels. Ils pourront pas se promener dedans, mais ils pourront se promener autour. De toute façon, c'est pas immense, là. Ils n'auront pas à faire... ils n'auront pas à les contourner pendant...
On parle de combien, généralement? Est-ce qu'un stationnement, deux stationnements?
En termes de cases de stationnement, là, ça fait à peu près 5-6 cases de stationnement, comme taille. Mm-hmm. Alors, c'est assez gros pour qu'il y ait une biodiversité qui s'installe, c'est ce qu'on souhaite.
Oui.
Mais c'est assez petit pour qu'on puisse la contourner en quelques secondes, là. Alors, mais l'idée, c'est vraiment de travailler sur un angle de résilience climatique, de créer de la nature, de la biodiversité, des îlots de fraîcheur, de ramener une plus grande diversité biologique dans la ville. Les microforêts ne sont pas la seule solution. Puis je tiens à le dire, dans l'arrondissement, on a aussi transformé nos parcs en prés fleuris, c'est-à-dire qu'on a fait plus de tontes de gazon sur à peu près 50 % de la superficie. On garde des sentiers. On garde quelques aires de pique-nique, mais le reste, on laisse pousser pour les pollinisateurs. On fait des jardins d'agriculture urbaine, des jardins libres. On a réintroduit, vous savez, au Parc Maisonneuve, on a biquette, on a même les moutons au Parc Maisonneuve. Alors, on est en train de travailler pour transformer l'arrondissement, réintroduire un aspect naturel des écosystèmes, puis de permettre à la population de reconnecter avec la nature en ville.
Entendu. Justement, M. Rojas Arias, la microforêt, c'est une stratégie parmi d'autres. Il y a plein d'aménagements écologiques qui peuvent être bénéfiques aux municipalités et à leurs habitants, n'est-ce pas?
Mais oui, bien sûr. C'est juste un outil parmi d'autres, une stratégie qui peut avoir un impact très rapide au niveau aussi de la séquestration de carbone, qui c'est bien sûr un autre des bénéfices de la forêt. C'est juste un outil là, parmi d'autres.
Oui. Professeur Brice, pourquoi il faut faire attention aux chiffres sensationnels? On entend souvent qu'une microforêt pousse 10 fois plus vite qu'une forêt régulière ou emmagasine 30 fois plus de CO2.
Oui, effectivement, faut faire attention un peu à la publicité qu'on fait de ces micro-forêts. Moi aussi, c'est ça, je lis des chiffres qui peuvent être assez impressionnants. Mais bon, d'abord, il faut savoir à quoi on compare. C'est pas toujours clair. C'est quoi le point de comparaison? Puis, de ce que j'ai vu, les chiffres qui sont avancés, justement, le 100 fois plus de biodiversité, 30 fois plus de carbone, ont pas vraiment de fondement scientifique solide. Donc, il faut les vérifier. Faut aller voir. Faut voir aussi en milieu tempéré ici au Québec. Les avantages, on peut les quantifier, mais il faut faire attention à ne pas survendre la nouvelle méthode. Il n'y a pas de magie dans la nature. On aimerait ça, pouvoir créer des forêts sans mère sur une place de parking en claquant des doigts, mais dans les faits, une forêt, ça prend du temps à mettre en place.
Oui.
Et c'est très dynamique, donc ça va toujours changer.
Exactement. Là-dessus, on est absolument d'accord. Là, je peux juste être d'accord avec ce que le professeur Brice vient de dire parce que, effectivement, notre approche, c'est on le sait pas.
Mm-hmm.
On veut pas non plus. On pourrait partir dans cette microforêt est fantastique et va capter tant de tonnes de carbone. C'est sexy mettre un petit panneau comme ça à côté d'une plantation quand on est une municipalité, mais on ne souhaite pas faire ça parce que le but, c'est on va le savoir plus tard.
Oui, la recherche ne l'est pas pour l'instant.
Exactement. Mm-hmm. Mais l'idée de le faire, c'est d'avoir un outil d'apprentissage, puis un laboratoire dans lequel on peut créer, innover et aussi s'amuser comme arrondissement. Alors, c'est une innovation qui est à la fois sociale, écologique, de transition écologique, urbaine, mais c'est vraiment intéressant. Puis ça va permettre de voir effectivement où ça va nous mener.
Entendu. Professeur Brice, je vais terminer avec vous. Comment les petits espaces verts urbains réagissent aux changements globaux? Je sais que ce sont vos recherches. Par exemple, les changements comme les changements climatiques ou le recul de la biodiversité.
Oui, les milieux urbains sont particulièrement vulnérables aux changements climatiques. Parce que les villes, c'est déjà des milieux hostiles pour les plantes.
Oui.
C'est déjà plus chaud, plus sec, plus perturbé. Donc, les changements climatiques vont venir empirer la situation. Par exemple, avec les périodes de canicule, on le voit dans les derniers étés, ils sont en augmentation, puis ils sont appelés à devenir de plus en plus fréquents. Donc, comme on a eu l'année passée, par exemple, un canicule au mois de mai, ça peut être très dommageable pour les arbres. Comme on est en milieu urbain, mais souvent, c'est encore plus chaud que dans les milieux naturels. Donc, les arbres sont déjà stressés et risquent d'en souffrir encore plus. Mais bon, ces impacts-là ne vont pas se sentir du jour au lendemain. C'est pas l'hécatombe à chaque canicule. Ça peut prendre plusieurs années avant qu'un arbre meure à cause d'un stress climatique, mais à la longue, avec l'accumulation des stress, les arbres pourraient vivre de moins en moins longtemps. Et ça peut aussi, pour les arbres qui sont plantés en cause de trottoir, par exemple, ça peut être encore plus difficile de survivre. En plus de ça, ben, c'est sûr qu'en milieu urbain, avec les températures qui se réchauffent en hiver, ça peut permettre à des espèces exotiques, donc qui viennent de d'autres pays, et à des insectes ravageurs de survivre. Donc, ils ne pouvaient pas survivre avant à cause de nos hivers froids. Ben là, les hivers deviennent de plus en plus doux. Ces espèces-là peuvent augmenter en abondance. On en a déjà beaucoup des espèces exotiques en ville, et puis là, ben, elles pourraient être de plus en plus favorisées au détriment de nos espèces indigènes.
Mais dans les micro-forêts, si on plante juste des espèces indigènes, il n'y aura pas la place pour ces espèces-là?
Théoriquement, mais c'est sûr que dans les faits, au bout d'un certain nombre d'années, les espèces exotiques sont assez résistantes à nos conditions. Les conditions sont difficiles en milieu urbain, c'est pour ça que c'est souvent ces espèces-là qui sont favorisées, c'est pas pour rien. Théoriquement, oui, c'est une forêt plus dense, c'est plus difficile à envahir. Donc, mais les insectes ravageurs sont quand même là dans les forêts naturelles ou dans les forêts urbaines. On peut avoir des problèmes aussi avec ces insectes-là qui vont augmenter dans les prochaines années. On le voit déjà, par exemple, avec la grêle du frêne qui entraîne la mortalité de tous les frênes à Montréal. Donc, on peut avoir des nouveaux problèmes comme ça. Si les forêts, les micro-forêts ne seront pas épargnées. Donc, on espère créer des milieux assez denses, peut-être, pour éviter certains de ces dommages-là qui seront épargnés.
Entendu. Ben, on va espérer, on va suivre tout ça, on va continuer à faire de la recherche. Puis pour l'instant, c'est une belle initiative, justement, à expérimenter. Donc, ça peut contribuer pour une ville à un aménagement vert un peu différent et intéressant aussi pour verdir la ville finalement. Donc merci beaucoup, on était en compagnie de Marie-Hélène Brice, vous venez de l'entendre, elle est botaniste et chercheuse à l'Institut de recherche en biologie végétale au Jardin botanique de Montréal. On était en compagnie de Jorge Rojas Arias qui est chargé de projet chez Arbre Évolution et de François Limoges, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie qui compte justement 4 micro-forêts. Je pense que c'est la municipalité qui en compte le plus. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci
beaucoup.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, Fanny Robartcher. À la réalisation micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Nous avons des rediffusions. Nous avons aussi une page de l'émission, visitez-la. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Passez tous une très bonne semaine. Portez-vous bien.
Jin Jiahua est un chercheur typique.